Mesdames et messieurs, bonsoir. Durant les trois années de la transition en RDC, la situation des enseignants, des élèves, des parents, des médecins, des infirmiers, des malades, bref, tout le social du peuple congolais s'est-il amélioré? Des infrastructures sociales ont-elles été construites ou réhabilitées? L'invité spécial des dialogues entre Congolais qui va répondre à toutes ces questions est le vice-président Arthur Zaïdi Ngoma. D'abord, bonsoir, monsieur le vice-président.
Bonsoir.
Alors, monsieur le vice-président, vous êtes chargé de la commission sociale et culturelle du gouvernement de la transition en RDC. Ce soir, vous avez accepté de venir parler à nos auditeurs des réalisations de la commission que vous avez présidée durant les trois années de la transition. Et comme toujours, nos auditeurs sont déjà très nombreux à nous envoyer leurs opinions. Kassere Kapius de Kikwiti, dans la province de Bandundu, estime que comme voter est un devoir civique, payer les fonctionnaires est aussi un devoir civique. Des Christians résidant à Mukwija, dans le territoire de Calais, au sud Kivu, le bilan est négatif car dans le domaine socioculturel, rien n'a été réalisé, surtout qu'ici chez nous à Calais, les enfants étudient encore à même le sol pour ne citer que ceux-là. Et John Peter Kézamoudrou du Siro en province orientale pose directement cette question. Pourquoi le vice-président Arthur Zaïdi Ngoma avait-il signé Mboudi, sachant que c'était irréalisable? Tout de suite, les réponses à toutes ces préoccupations.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Aujourd'hui, suite donc de notre série d'émissions bilan des institutions de la transition, le vice-président en charge de la commission sociale et culturelle et l'invité spécial des dialogues entre Congolais, comme nous venons de l'annoncer dans l'introduction de cette émission, Arthur Zaïdi Ngoma, encore une fois, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans le domaine social, ce sont l'éducation et la santé qui ont marqué l'actualité pendant les trois années de la transition. Nous vous proposons donc de nous pencher plus particulièrement sur ces deux domaine pendant cette émission. Et quand on parle de la santé et de l'éducation, on pense d'abord aux hommes et femmes fonctionnaires de l'État qui travaillent dans ces domaines. Et bien sûr, on pense aussi au slogan « Mboudi ou rien » qui a été répété plusieurs fois par les fonctionnaires en colère au cours de la transition. Mboudi fait référence à un accord conclu le 12 février 2004 entre le gouvernement et les syndicats. De son vrai nom, contrat social d'innovation, l'accord de Mboudi est l'acte le plus marquant du dialogue social durant la transition. Alors, monsieur le vice-président, avant que vous ne puissiez réagir à tout ceci, notre confrère Georges Kamoudjova décrit ici les grandes lignes de cet accord.
Par cet accord, le gouvernement s'engageait à donner chaque mois $208 aux fonctionnaires le moins gradé. Cet objectif devait être atteint par palier. Le premier attendu en avril 2004 devait donner au moins $69 américains par mois aux huissiers. Et à ces jours, l'agent huissier de l'État touche environ $50 américains. À la non-réalisation du premier palier de Mboudi s'est mêlé le retard de paiement de salaire et la disparité selon les provinces. Cette situation a engendré plusieurs mouvements de grève à travers le pays. La plus remarquée est celle des enseignants. Pour illustration, l'année scolaire en cours a même démarré avec plus d'un mois de retard. Les enseignants ne pouvant être payés comme souhaité, la contribution des parents pourtant décriée continue à être perçue. Une dizaine de membres du gouvernement, avec en tête le vice-président Arthur Zaïdi, avait promis de défendre Mboudi au gouvernement, mais il n'a jamais été examiné profondément par le Conseil des ministres. Certains membres du gouvernement estimaient que le budget de l'État congolais était incapable de réaliser cet accord. Aussi, le comité chargé de suivre l'exécution de cet accord ne s'est réuni pour la première fois que 20 mois après sa conclusion. Pour dénouer la crise avec les fonctionnaires et réfléchir sur Mboudi, une rencontre a eu lieu à Kisantu dans le Bas-Congo. C'était en octobre dernier et elle s'est terminée sans décision. Les syndicats estimaient que la prime de $15 proposée par le gouvernement pour augmenter leur rémunération mensuelle ne convenait pas et que Mboudi n'était pas renégociable.
Monsieur le vice-président Arthur Zaïdi Ngoma, d'emblée votre réaction par rapport à cet encadré de, ou bien cet élément de notre confrère Georges Kamoudjova qui a résumé un peu cet accord que vous avez passé à Mboudi.
Résumé plutôt pessimiste. Je crois que avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord se dire une chose. Mboudi est effectivement une innovation dans ce pays. Une grande innovation. Vous avez bien fait de souligner que ça aura marqué cette transition. En quoi Mboudi est une innovation? Parce qu'elle introduit l'idée du social dans ce pays. Le social, il ne faut pas l'oublier, a été très souvent confondu avec le don. C'était les conducteurs, dans sa grande magnanimité, qui faisaient des dons. Nous sommes ici pour dire que le gouvernement n'est pas un service pour le don. C'est un service de l'État qui met en œuvre un programme d'action. Et dans le domaine social, c'est un programme social qui doit être mis en œuvre. Mboudi vient confirmer ça ici. Il y a bien sûr les aspects qui ont été souvent retenus, c'est les aspects conditions salariales. Mais Mboudi va au-delà de ça pour marquer une volonté de concertation permanente entre le gouvernement de la République et ses fonctionnaires.
Alors pour évoluer, Monsieur le Vice-président, Tony Banza à l'Université de Kinshasa pose cette question. Excellence Monsieur Arthur Zaïd Ngoma, où en êtes-vous avec l'affaire Mboudi et pourquoi ne réagissez-vous pas aux pleurs des fonctionnaires de l'État? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que Mboudi a marché ou pas?
Cette question est déjà contenue dans les questions que vous avez posées et j'aimerais simplement que vous me laissiez un peu le temps d'y répondre. Parce qu'il fallait d'abord situer les cadres. Ça c'est Mboudi. Un contrat social de l'innovation. Pourquoi? Parce que ça introduit une innovation importante dans ce pays. Naturellement, parce que la question précise qui est posée concerne le salaire, je vous dirais ceci, que j'ai été à Mboudi en février 2004 avec des syndicalistes dont j'admire l'intelligence par ailleurs. Parce que c'est des hommes et des femmes que l'on croit souvent inapte à décoder ou à déchiffrer le budget, mais ils connaissent très bien le budget de l'État. Ils ne peuvent pas demander au-delà du budget de l'État. Tout le monde connaît la pauvreté relative du pays en ce moment. Et Mboudi, de façon responsable, nous avons convenu de ceci. N'ont pas payé, comme beaucoup l'ont dit, 208 $ à huissier par
mais
mois.
Mais quand même l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires.
Justement, l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires.
Alors, Monsieur le Vice-président, je vous proposerais plutôt qu'on y aille cas par cas. On a choisi deux domaines, la santé et l'enseignement. Alors, le professionnel de la santé estime que la situation de ces secteurs de la vie, sociale n'a pas évolué durant la transition, malgré Mboudi, selon le secrétaire exécutif national du SIMCAS. Toutes les négociations engagées en vue d'améliorer les conditions du personnel de la santé sont restées lettres mortes. Alors, Joseph Kibangula est joint au téléphone par notre confrère René Capita. Je vous invite à suivre ça.
Ça n'a pas marché. Les hôpitaux qui donnent ou qui dispensent les soins à la population n'ont pas été pris en compte par le ministère de la Santé. Le financement mis à la disposition du ministère de la Santé a été plus affecté dans les projets et les programmes du ministère et les hôpitaux sont tels qu'ils sont depuis très longtemps. C'est ce qui fait qu'il y a des motivations des agents qui travaillent dans les hôpitaux, c'est-à-dire de venir travailler 2-3 heures de temps à l'hôpital et ensuite ils vont ailleurs. C'est un échec cuisant parce que le gouvernement dans son ensemble, le ministère de la Santé en particulier, très insensible à l'écoute des agents de la santé, des professionnels de la santé, qui croupissent dans la misère comme toute autre population congolaise. Nous sommes en négociation depuis 2 ans, ça ne répond pas. Et pourtant, nous avons un responsable du ministère, nous avons un vice-président qui est chargé du socio-culturel. Les choses ne marchent pas, toutes les négociations aboutissent toujours à des difficultés.
Monsieur le vice-président Arthur Zaïd Ngoma, vous venez de suivre donc ces témoignages de ces syndicalistes. Apparemment, vous êtes insensible aux cris des professionnels de la santé et qu'ils ont attendu durant la transition l'amélioration de leurs conditions de vie sociale. Ça n'a pas marché. Pourquoi?
Écoutez, à dire que je suis insensible aux questions, aux conditions sociales des personnels de santé est... Je ne sais pas. Il pourrait avoir raison. Je ne crois pas. Parce que, d'autant que nous avons mis tout en œuvre pour nous efforcer d'améliorer leurs conditions. Ce qu'il y a, ce qu'il faut dire. Je n'ai pas pu finir la question de Mboudi et les approches que nous avons adoptées. Parce que ça concerne tout ce monde-là, aussi bien les professionnels de santé, aussi bien que tous les fonctionnaires en général.
Mais dans les cas sous-examen, en fait, en parlant des médecins, si vous pouvez réagir à cette opinion ou bien non, ce témoignage
pour,
que nous venons de suivre.
Pour des médecins, il sait très bien, celui qui a posé la question, il sait que la question des professionnels de la santé a été posée. Il est en considération. Nous avons eu quelques dérapages. Et il y a l'aspect de son interrogation qu'il faut retenir, qui sont fondées. Nous avons eu quelques dérapages. Mais cela étant, la question est sous examen, pour la simple bonne raison qu'il s'agit de tenir les promesses qui ont été tenues, qui ont été avancées par le gouvernement à ce moment, qu'il s'agissait d'améliorer les conditions professionnelles de personnel de santé. Bon, cela étant, nous sommes...
Parce que le médecin est en grève.
Non, ce n'est pas parce qu'ils sont en grève, ça c'est depuis 2005 que la question est pendante. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a bien sûr la question telle qu'elle est traitée au niveau de la commission sociale et culturelle, mais il y a l'environnement d'ensemble, donc dont le programme d'appui, qu'il faut appeler ici le budget de l'État, qu'il faut suivre. Tout se fait en fonction de l'évolution du budget de l'État.
Nous allons revenir effectivement au cours de cette émission sur ce point, ce qui concerne le budget de l'État. Mais parlons des enseignants donc du domaine de l'enseignement, uniformisation.
Nous passons de personnel de santé aux enseignants.
Enseignants, oui, parce qu'il y a des domaines qu'on a vraiment limités, la santé et l'enseignement. Alors, l'uniformisation des salaires dans toute la République, paie de la prime, les paiements réguliers et la majoration sensible des salaires des enseignants, la titularisation des enseignants, la création du fonds de promotion de l'éducation, c'est le bilan de Jean-Pierre Kimbuya, secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, qu'il établit en ce qui concerne les réalisations dans le cadre du dialogue social entre le personnel de l'enseignement et le gouvernement. Mais néanmoins, Jean-Pierre Kimbuya, qui lui est secrétaire général du syndicat, souligne que le gouvernement a encore beaucoup à faire. Et je vous laisse également le suivre parce qu'il a été joint au téléphone par notre confrère René Capitaine.
Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire par rapport au traitement des bases qui est dérisoire pour garantir, n'est-ce pas, la période de la précarrière. Ce qui reste à faire, c'est que le gouvernement applique l'accord de Moody de manière intégrale, parce qu'il n'a jamais été appliqué. Mais la qualité de l'enseignement a régressé, parce que vous savez que à l'instauration du système de prise en charge des enseignants par les parents en 1993, la scolarité était d'abord de 70%, et déjà en 2004, elle a baissé jusqu'à 40%. Et puis, les systèmes de prise en charge des enseignants par les parents a fait en sorte que beaucoup d'enfants puissent subir la dépression scolaire pour grossir les rangs des enfants et de la rue. Donc, le système éducatif, quand on fait le conseil d'évaluation, a fait montre d'une évaluation biaisée. Il faut que l'État reprenne ses attributions régaliennes et prenne en charge les enseignants et s'occuper des conseils de travail, des infrastructures scolaires, du matériel didactique et tout consort. Nous considérons l'accord de Moody comme étant les cadres légaux de concertation en matière de dialogue social et nous comptons les poursuivre même après la transition.
Ils reconnaissent quand même qu'il y a eu des avancées, comme vous l'avez dit, des innovations, mais il reste encore beaucoup à
mais
faire.
Mais vous avez vu là la probité, l'esprit des enseignants. Il a exprimé la probité, l'esprit des enseignants. Savoir que nous ne pouvons pas dire, nul ne peut dire que rien n'a été fait. Beaucoup ont été faits.
Ils les reconnaissent d'ailleurs.
Ils reconnaissent. Et ce qu'il y a, naturellement, les conditions enseignantes dans notre pays ne tiennent pas qu'au salaire. Ça tient aussi à la gestion de carrière et à l'investissement que l'on fait dans l'enseignant, notamment en termes de formation en cours d'emploi. Et il y a aussi tout l'environnement scolaire qu'il faut prendre en considération. Et aujourd'hui, grâce à la BAD et à la coopération que l'UNESCO nous apporte, nous avons pu lancer un programme d'appui au secteur de l'éducation qui tend précisément à répondre à toutes ces questions et je suis sûr que les enseignants ne doivent pas s'arrêter à l'actualité, ils doivent s'inscrire dans la perspective. Et c'est quoi la perspective?
Ils ont attendu 3 ans.
Écoutez, non, pas 3 ans. Ils ont attendu plus de...
La transition.
Ils ont attendu des décennies. Vous savez, d'où nous venons? d'où nous venons. Vous savez que nous sommes arrivés dans ce pays à un budget affecté à l'éducation qui s'élevait à 0,01% du budget. Vous voyez la catastrophe. Nous venons de très loin. La transition ici est en train de répondre à une situation totalement, je veux dire, pourrie, entre parenthèses. Pour vous dire que ce n'est pas un motif de baisser les bras, c'est au contraire un motif de continuer à travailler. Il a parlé du fonds de promotion de l'éducation. C'est important, c'est un outil récent qui vient d'être adopté grâce effectivement au concours des syndicalistes, donc à l'esprit Mboudi, je veux dire à la concertation permanente qui s'instaure entre le gouvernement et les professionnels dans tous les domaines.
Mais Mboudi n'a pas été réalisé du côté salaire des enseignants et des médecins, donc de tous les fonctionnaires.
Vous m'avez pas laissé, vous m'avez pas laissé expliquer Mboudi.
Monsieur le vice-président, expliquez Mboudi. Oui, bien sûr, on peut prendre toute une émission pour le faire. Mais si vous pouvez répondre à cette question de John Peter Kézamoudrou, d'Isiro, en province orientale, pourquoi le vice-président Arthur Zaïd Ngoma avait-il signé Mboudi, sachant que c'était irréalisable, surtout du point de vue des salaires que vous avez promis à tous ces fonctionnaires de l'État.
Toutes ces questions-là, qui sont énoncées comme ça, comme des postulats, qu'il faut expliquer, parce que sinon ils ne comprendront pas. Alors pour qu'ils comprennent, il faut qu'ils sachent qu'en Mboudi, ce que nous avons convenu, c'est que, un, pour l'instant, nous allons agir sous les nets à payer. C'est ce qui a été fait en Mboudi. Parce que pour entrer dans une démarche barémique, encore faut-il maîtriser les effectifs. Jusqu'à présent, vous savez très bien, on est en train de vérifier les effectifs. Vous savez, nous ne sommes pas là pour payer l'effectif. Les chiffres qu'on avait avant, prenons Kinshasa, le nombre de fonctionnaires retenus à Kinshasa à l'époque
ancienne. Vous les saviez avant d'aller signer Mboudi.
Attendez. Mais on savait tout ça, mais on attendait Mboudi parce qu'il fallait bien y aller. Il fallait bien négocier. Qu'est-ce que vous vouliez que nous fassions? Que nous restions les bras croisés alors que la condition sociale de nos travailleurs est en dégradation? Il fallait bien qu'on discute.
Donc vous l'avez fait.
On discute avec des hommes responsables. On a convenu d'une démarche qui reste valable jusqu'aujourd'hui. Je dois vous dire une chose. Pour ceux qui parlent de Mboudi a échoué. Non, Mboudi n'a pas échoué. Parce que Mboudi est une réalité. Les fonctionnaires aujourd'hui, le dernier des fonctionnaires, il a le salaire, l'exact salaire que touchait un professeur d'université avant la transition. Vous voyez l'effet Mboudi. Alors vous ne me dites pas que c'est rien. C'est quand même une action entreprise. Et quand on fait des comparaisons avec les régimes caporalistes d'avant, où il n'y avait pas Mboudi, vous savez que c'est on était de 1 dollar, 2 dollars.
Alors, monsieur le vice-président, répondez maintenant à cette question à partir de Boutembo, suivez.
Je suis Jeanne Kakule Mboko, j'appelle de l'autre thème Nord Kivu. Monsieur le vice-président, entre illusion et espoir, qu'est-ce qui reste pour le fonctionnaire congolais après cette transition?
Les enfants vivent d'illusion et d'espérance. Avec l'âge, les illusions tombent, il reste l'espérance. Alors je vous dis que votre espérance ne sera pas étouffée.
Et les fonctionnaires ont été nourris d'espoir?
Aujourd'hui, ils sont fondés d'être nourris d'espoir, alors qu'hier, ils n'étaient même pas fondés de soutenir l'espoir. Il n'y avait pas d'espoir hier.
Parlons maintenant des usagers du social et suivant cette analyse de la situation avec le professeur Eli Kambokolo, qui est historien des renoms internationaux. Le secteur social et les parents pauvres de la période transitoire. Pour lui, si très peu de progrès ont été réalisés en 4 ans dans les domaines de la santé, de l'éducation, c'est parce que au moment des discussions politiques de Sun City en 2002, l'amélioration des conditions sociales de la population n'était pas au premier plan des discussions. Le professeur Eli Kambokolo est au micro de Paul Kaboba. Suivant.
Sur le plan social, je dirais que c'est le verre, il est à moitié vide et à moitié plein. Peut-être un peu plus vide que plein. Le social a été le parent pauvre des discussions qui ont eu lieu notamment à Sun City, où on se souvient que la plupart des acteurs congolais se sont précipités vers les commissions où il était question de constitution et de politique, parce que le grand enjeu c'était cela. Et du coup le social, on n'en a pas parlé pensant que le social accompagnerait nécessairement le processus de démocratisation politique. Il y a un certain nombre de distorsions sur le plan de la politique sociale, dont on se rend compte maintenant que le processus de transition est en train de s'allonger. Hein, on l'a vu notamment l'année dernière dans la grève des professeurs du secondaire et du primaire. On le voit cette année avec les difficultés que le gouvernement a avec les infirmiers et les médecins.
Y a-t-il eu des points positifs ?
Bon, il y a eu surtout des promesses qui sont intéressantes pour l'avenir, notamment les ministres en charge et le vice-président en charge du dossier a reçu les forces représentatives de ces différents secteurs. On a promis également des augmentations des salaires. Donc c'est plutôt, je dirais, le personnel d'encadrement de ce secteur social qui a été un peu entendu, même si concrètement, les fruits ne sont pas tombés dans leur assiette. En revanche, pour le citoyen moyen, donc le malade qui doit être soigné, les parents d'élèves, ben, beaucoup de choses sont encore à venir, hein, concernant aussi bien la répartition équitable des institutions à l'échelle du pays, le prix à payer pour la santé ou pour la scolarisation, donc toute une série de choses dont on n'a pas commencé à débattre, notamment au prétexte que l'argent manque dans les caisses, mais dont je pense le moment venu, à partir de septembre ou octobre de cette année, il faudra vraiment s'occuper très sérieusement.
On a aussi promis, dans le cadre de l'aide aux pauvres, que les infrastructures scolaires et médicales devaient être aussi améliorées.
Oui, je pense que ça, c'est l'un des gros enjeux, hein, c'est-à-dire, d'une part, améliorer les infrastructures existantes, qui sont, dans beaucoup de cas, dans un état de délabrement, qui sont indignes.
Alors, Monsieur le Vice-président, qu'est-ce qui a été fait durant la transition en ce qui concerne les usagers, du social?
J'observe d'abord que ce que vient de dire le professeur Mbokolo est un satisfecit donné à la Commission sociale et culturelle. Il vient de constater qu'effectivement, le dialogue entre Congolais n'a pas donné sa primauté et au secteur social, et qui a été donné d'ailleurs à l'opposition politique. Pas pour rien, c'est parce que c'était considéré comme négligeable.
Donc vous voulez insinuer que vous n'avez pas assez de moyens pour répondre aux besoins de ces usagers-là?
Je veux insinuer simplement que l'action qui a été mise en œuvre par la Commission sociale et culturelle marque son aspect volontariste. Et ça a été fait. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, c'est tombé dans l'assiette du fonctionnaire, même si sa modicité ne nous permet pas de nous gargariser d'une réussite ou quelque chose de cette nature-là. Il faut convenir que le social dans ce pays, le Congo, il ne faut pas le remarquer aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Il faut dire, il faut donner son certificat à la transition actuelle qui a reconnu la place du social finalement au travers de sa commission.
Prenons un exemple concret, monsieur le vice-président, et parlons par exemple des usagers du social tels les malades. Donc l'accès aux soins est de plus en plus difficile en RD Congo pour de nombreuses populations. Et ces derniers jours, avec la grève des médecins, les malades éprouvent des difficultés énormes pour se faire soigner. Alors notre stagiaire Willy Akonda a rencontré certains malades à l'hôpital général de Kinshasa. Suivez.
Vraiment, les médecins sont absents ici. Nous déplorons cette situation parce que maintenant il y a beaucoup de morts à cause de l'absence des médecins. Ils passent parfois, mais ils viennent pour se promener, je peux dire, parce qu'ils rencontrent des cas graves. Ils disent que nous sommes en grève et ils sont là. Ils ont fermé les oreilles aux plaintes des patients. J'interpelle par cette interview le vice-président Zahid Ngoma pour qu'il voie le cas social.
Oui, monsieur le vice-président, on vient de voir là que la situation des malades même est tributaire même des médecins et des conditions des médecins. Si les médecins ne travaillent pas, le malade non plus ne pas soigné, par exemple.
Tout à fait d'accord, et le message est entendu, et nous faisons tout. Rassurez-vous, le stade social ne se repose pas. Nous faisons tout au quotidien, même lorsque je ne rencontre pas les syndicalistes. C'est mon devoir que d'interroger au sein du gouvernement, quelles sont les possibilités qui nous sont offertes pour pouvoir améliorer les conditions de vie du personnel, des professionnels de santé. Il y a une autre question qui a été posée et qui est importante, c'est l'accès aux soins.
L'accès
aux soins,
oui.
Ça la démocratisation de la santé. Et là, je viens là d'Afrique du Sud. J'ai été précisément négocier avec une entreprise là-bas qui s'appelle Afrimed, qui est spécialisée dans l'assurance maladie. Et je crois que si Dieu le veut, si les choses avancent comme il faut, et nous allons avoir aussi chez nous un système d'assurance maladie qui n'existe pas, figurez-vous. Et ça depuis des décennies.
Hein? Et ce ne sont pas des promesses cette fois-ci.
Non, non, ils sont ici déjà, ils sont arrivés, ce n'est pas des promesses, ce n'est pas une promesse que je sois allé en Afrique du Sud, j'ai bien été en Afrique du Sud, en chair et en os, rassurez-vous, j'ai négocié avec eux. Et s'il intervient un accord entre le gouvernement et eux, bon, je crois que nous allons, pour une fois, dans ce pays, et pour la première fois, avoir une assurance maladie, comme dans tout pays civilisé.
Alors, les autres usagers du social, ils sont par exemple dans le domaine de l'enseignement, les parents, les enfants, les élèves, donc. Alors, le bilan de la transition à la commission socio-culturelle, les parents de Mbujima et au Kassai Oriental se disent dessus et jugent ces bilans donc négatifs. Ils évoquent la non-application des accords des Mboudi, encore une fois, et la régression du niveau de l'éducation en RDC pendant la transition suite au découragement des enseignants. On écoute ses parents de Mboudimaï au micro de Emmanuel Elamaji.
Sur le plan de l'éducation, moi en tant que parent, je pense que nous sommes vraiment paupérisés par les études de nos enfants parce que les frais scolaires coûtent énormément cher. Et ce que nous sommes en train d'observer sur le terrain, surtout ici chez nous en Mboudimaï, nous trouvons que les écoles qui fonctionnent bien, ce sont les écoles privées. Et puis les coûts sont exorbitants, tandis que les écoles publiques où nous qui avons beaucoup d'enfants, nous pouvons envoyer, orienter nos enfants dans les écoles publiques. Il n'y a pas d'enseignement, les enseignants sont toujours découragés. Et puis, s'il faut par exemple supporter le frais des enfants qui sont dans les écoles publiques, vous voyez ce que font les parents. Pour ce qui est des résultats sur le terrain, nous voyons que les enfants étudient, terminent les humanités, mais ils n'ont pas un niveau convenable parce que les enseignants ne font pas leur tâche avec toute la conscience professionnelle.
Alors, les fonctionnaires de l'État n'ont pas été les seuls vraiment à espérer beaucoup de choses par rapport à Mboudi. Les parents aussi ont espéré beaucoup de choses par rapport à Mboudi en ce qui concerne la scolarisation de leurs enfants. 3 ans après, toujours rien n'est fait. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces parents qui continuent à souffrir?
Non, ça concerne le système éducatif du pays. Il ne faut pas tout réduire à Mboudi. Mboudi concerne un aspect ici, la question qu'il a posée. C'est notamment l'adéquation des programmes de cours par rapport aux besoins du pays.
Pas seulement cela, et la prise en charge aussi des enseignants.
J'y arriverai à ça, et puis la formation en cours d'emploi des enseignants. Je crois que je vous ai parlé ici d'un programme d'appui au secteur d'éducation qui vient d'être mis en œuvre. Et il nous a fallu pour cela le concours de l'UNESCO, et je crois que à la fois les questions de curricula, les questions de comment dire aujourd'hui, de renforcement des capacités, toutes ces questions sont concernées. La formation même des inspecteurs, on va former quelque chose comme 660 inspecteurs d'éducation. Il y a aussi les enseignants eux-mêmes qu'il faut former, on va former 11 000, quelque chose comme ça. Tout ça va agir dans le contenu de cours. La question de prise en charge par les parents de l'éducation des enfants, vous savez, ça remonte, je crois que c'était en 90, quelque chose comme ça, quand l'État a démissionné du secteur éducatif. J'étais aujourd'hui d'ailleurs avec les établissements privés agréés, de Maman Sophie Fouane qui est présidente. Et j'étais fier de pouvoir observer comment les citoyens congolais ont compensé la défaillance de l'État dans ce domaine. Tous ces enfants
ici,
que j'ai pu
la
voir...
La question des parents, c'est celle de savoir si finalement, quand est-ce qu'ils vont cesser de prendre en charge leurs enfants.
Mais
vous
savez que mon profond désir, c'est cela. Donc, vous êtes en train de défoncer une porte ouverte. Moi-même, je me suis battu ici avec toute ma commission et le gouvernement pour que nous puissions aboutir à la gratuité et nous devons y parvenir. C'est même l'un des objectifs du millénaire. Nous devons y parvenir. Mais simplement, on n'y parvient pas par un coup de baguette magique. Hein. Il faut quand même améliorer diverses conditions et qui concourent à l'amélioration des conditions salariales des enseignants pour qu'on puisse par ailleurs libérer les parents de cette charge indue. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'enseignement dont nous parlons, c'est un terrain de partenariat. Il sera toujours un terrain de partenariat entre parents, parents d'élèves, enseignants et l'État.
Je vous invite maintenant à nous rendre au Sud Kivu et suivre ces petits garçons de 12 ans. Il s'appelle Pacifique. Il est élève à l'école primaire Weza des Nyangezi. Je pense que vous connaissez cette école. Nous l'avons rencontré l'année dernière à Maimoto, à Nyangezi, un site où l'on fabrique des façons artisanales des briques. Alors, sitôt la fin de chaque année scolaire, la préoccupation majeure de cet enfant, et tant d'autres d'ailleurs des Nyangezi, est de trouver un petit boulot et faire des économies parce qu'il faut aider les parents si on veut reprendre le chemin de l'école l'année suivante. Suivez.
Moi, je voyage d'ici à Kamagnola pour acheter du lait. J'achète 5 litres à 1500 francs. Moi, je viens ici pour vendre un verre à 100 francs. Je ne peux pas dire que j'ai réalisé un profit parce que, en cours de chemin, je rencontre des militaires qui nous demandent aussi de l'argent de 300, de 400 francs. Je ne gagne absolument rien, c'est ce que je peux dire.
Ton capital, c'est combien?
C'est 1500 francs.
Même si tu ne gagnes rien, tu fais quoi avec cet argent?
Non, vous voyez que moi, je paie soit les enseignants, il y a les autres qui me font une aide là. Puis, quand on est encore en vacances, je rentre ici au chantier. Si je trouve encore les 1500 francs, je descends encore à Magnola pour acheter les marchandises là. Parce que je trouve que souffrir chaque jour en transportant les briques, c'est très fatigant. Il y a des fois même que j'arrive à ne pas me lever. Je trouve bon d'aller là à Magnola pour chercher du lait. Il y a longtemps qu'on parlait qu'on va payer les enseignants. Nous, mais nous voyons toujours que nous souffrons. Nous continuons toujours à travailler de nous-mêmes. Nous exerçons nos forces pour payer les enseignants. Bon, je pourrais alors envoyer le message pour dire à notre État de payer les enseignants. Parce que vous-même, vous êtes arrivé ici sur Terre, vous voyez comment est-ce que nous souffrons pour payer la prime des enseignants. Vous voyez comment est-ce que je transporte les laits pour vendre, pour trouver donc de l'argent pour payer les enseignants. Vous voyez qu'est-ce qu'une souffrance. Moi, je voyage d'ici à Kamagnola à pied pour payer les enseignants.
Monsieur le vice-président, c'est déplorable, n'est-ce pas, que les enfants aient à travailler pour payer leurs études et qu'ils travaillent en plus.
C'est ça le tableau de la souffrance du pays. Il faut qu'on se dise une chose. Je ne partirai pas ici avec l'idée que je défends l'indéfendable. Je ne suis pas venu pour ça ici. Je suis venu dire simplement que l'effort a été mené. Et c'est attendu que la transition étant forcément courte, c'est 2 ans, plus 1 an, ça fait 3 ans, maintenant nous allons partir aux élections, il n'était pas possible d'avoir l'ambition de conjurer le mal congolais, dans le mal social en particulier.
Mais est-ce que vous pouvez on ne pouvait pas
logiquement dire que voilà mon ambition, j'entreprends la transition et je conjure le mal social du pays. Non, c'est pas vrai. Bon, nous pensons, en ce qui nous concerne, que l'important est de saisir le problème qui est posé et de mettre en mouvement les bases, les fondements d'une action d'envergure pour que le pays change dans ce domaine, investisse dans ce domaine. Au fond, la priorité à l'éducation, la priorité à la santé, la priorité au social tout court. Nous ne parlons pas encore ici des enfants abandonnés, chégués, enfants de la rue et autres. Le mal est profond. Et ne pensez pas que
Vous espérez quand même qu'avec la transition, on arriverait
mais
à...
Mais la transition a fait sa part de combat là-dedans. Mais simplement, nous comprenons fort bien que l'espérance de la population était que avec la transition, c'est fini. C'est comme d'aucuns commencent à vendre la chimère aujourd'hui en disant, après les élections, c'est fini le mal social, c'est fini les salaires bas. Non, il faut pas mentir à la population, il faut dire à la population que le pays est tombé tellement bas que pour relever ce pays, eh bien, investissons dans l'homme, investissons dans le social.
Maintenant, monsieur le vice-président, suivez cette question qui vous est posée à partir du Sud Kivu.
question. Je m'appelle Kakosi Mutambala. Je suis habitant de Baraka, en territoire de Fizi, au site Kivu. Son Excellence, Monsieur le Vice-Président, Arthur Zaidingoma. Je voudrais savoir pourquoi les écoles et les hôpitaux publics ne sont pas payés. Les fonctionnaires et les agents de l'État ne sont pas payés. Je me pose la question de savoir pourquoi cela. Où va l'argent voté au Parlement en ce sens?
Oui, Monsieur Arthur Zaidingoma, Monsieur le Vice-président Arthur Zaidingoma, où va l'argent voté au Parlement?
Il a certainement suivi le point qui a été inscrit par la Commission sociale et culturelle au Conseil des ministres et qu'il a adopté concernant les circuits de paiement des enseignants. Parce que nous avons pu comprendre que c'était cet argent qui était payé aux enseignants, perdait de son énergie et en cours de route. Et donc nous avons essayé d'abréger les circuits et les circulations de cet argent pour qu'il ne soit pas ponctionné. Ce que nous décidons ici au niveau du gouvernement, souvent n'arrive pas au niveau du fonctionnaire en tant que tel, de l'enseignant. Ça arrive mutilé.
Pourtant, on parle des dépassements budgétaires au sein même de votre commission. On parle par exemple... Oui, oui, bon, donc... Pour tout le vice-président, on sait que le budget était par exemple des 1 963 000 et quelques francs congolais pour l'année 2003. Ça a été reconduit en 2004 Mais les dépassements budgétaires dont on parle ici est des 780 millions de francs congolais. Et cela se trouve dans le rapport Lutundula et même dans le rapport des NISA. Alors on se demande comment expliquer ces dépassements et où va cet argent finalement? Ça a servi à quoi?
Ça serait une aberration de dire qu'il y a eu un dépassement de la commission sociale et culturelle alors que nous avons besoin de moyens. Écoutez, chiffres-là...
Donc les rapports mentent?
Non, je vous dis, je vous laisse ces chiffres qui ne me concernent pas. Je ne pense pas que... Et la commission a eu un quelconque dépassement et nous avons plutôt besoin des moyens. Nous en demandons chaque début de l'année et nous n'arrivons pas à les recevoir déjà pour parler des dépassements. Enfin, ça c'est une aberration.
À quelques jours de la fin de la transition, les infrastructures sociales accusent toujours un état de délabrement très avancé. On va parler aussi de ces points-là. Alors certains d'entre elles ont connu une réhabilitation partielle avec l'appui des partenaires extérieurs. Alors je vous invite à suivre ces petits points faits avec notre confrère Freddy Lufuluabo.
Durant les 3 années de transition, l'État n'a pas construit beaucoup d'infrastructures sociales. Au chapitre des réalisations, on peut noter les 4100 logements actuellement en construction dans la périphérie ouest de Kinshasa. Il y a eu plutôt réhabilitation de certains édifices publics avec l'appui de la Banque mondiale. On peut citer le cas de l'hôpital général de Kinshasa, celui de Kisangani, la clinique Mwanzi de Bukavu, la clinique médicale de Mbandaka, ainsi que de certaines écoles officielles. Le Fonds social de la République a rétapé les stades municipaux de Massina et de Kitambo et quelques hommes de l'université de Kinshasa. Ces actions ne peuvent cependant pas effacer l'image de délabrement très avancé des infrastructures sociales de la RDC. Une dégradation due à la vétusté, à la destruction par les groupes armés ou la population civile. Durant la même période, beaucoup de maisons de l'État et d'espaces d'intérêt public ont été soit vendus à des particuliers, soit occupés anarchiquement. Plusieurs projets ont été inscrits au budget de l'État, mais la plupart n'ont pas été réalisés. La résolution du dialogue intercongolais sur la reconstruction des infrastructures détruites par les belligérants, par exemple à Kisangani, n'a pas été exécutée. Les habitants de la Tchopo continuent d'utiliser les bâches sur leurs maisons, dont les toitures ont été arrachées par les bombes en 2000.
Oui. Monsieur le vice-président, qu'avez-vous à répondre à cela? On s'attendait aussi que quelques infrastructures soient réhabilitées ou pourquoi pas qu'il y ait des nouvelles infrastructures sociales telles que des constructions des hôpitaux, des écoles par-ci par-là.
J'accueille volontiers les interrogations parce que le social est aussi une activité transversale. Et parce que là, les activités auxquelles on fait allusion ne relèvent pas de ma commission socioculturelle. C'est du social, mais ça relève d'activité transversale dans le gouvernement de la République. Simplement, ce que j'aimerais quand même dire, c'est que quand on parle avec l'appui de la Banque mondiale, et choses comme ça, il ne faut pas oublier que ce n'est pas toujours des dons, hein, c'est d'abord un endettement. Hein, donc c'est le gouvernement qui fait, hein, c'est quand même l'action à mettre l'actif du gouvernement, parce que demain il faudra payer cet argent. Cela étant, je crois que nous devons avoir à l'esprit que nous avons besoin d'une politique globale, intégrée. Et cela sera possible dès lors que nous aurons un gouvernement issu des urnes qui aura pour préoccupation cela. La transition, elle, elle a plusieurs préoccupations, dont d'abord la sécurité.
Et vous-même, vous n'avez pas reçu satisfaction avec la transition ?
Pour me satisfaire, il faut beaucoup. Il faut beaucoup pour me satisfaire. D'ailleurs, j'aurais été très satisfait si je n'avais pas en face de moi toutes ces questions qui me sont posées et dont la pertinence ne m'échappe pas. Mais simplement, je suis désarmé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? La volonté d'agir est là, mais les moyens ne suivent pas. Pour parler en congolais, moyens. Les moyens ne suivent pas. Bon, mais cela étant, on a essayé de compenser le manque de moyens par un peu d'intelligence, simplement. Mboudi relève simplement de l'intelligence. Ça n'a pas été prévu ni de l'accord global inclusif, ni de quoi que ce soit.
Oui, monsieur le président.
Non. Une action qui a été entreprise parce que nous pensons que la meilleure façon de reconstruire ce pays, c'est d'abord transiter par la reconstruction de l'homme.
Alors maintenant, place aux opinions des auditeurs.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités ? Par téléphone, composez-le 081 89 066 78.
Nadine Foula, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que nous avons reçu comme opinion aujourd'hui ?
Nous commençons par Dalton, qui est étudiant au campus du lac Goma. Excellence, rassurez-vous, le fonctionnaire congolais qu'avec un gouvernement légalement établi, celui-ci obéira à l'accord de Mboudi. Mouyaya de Kananga trouve que le bilan est largement négatif car la misère bat son plein dans la vie quotidienne du peuple congolais. Enfin, Milonde, qui est infirmier à l'hôpital Matanda Butembo, pense qu'un gouvernement qui ne s'occupe pas du social est démissionnaire.
Monsieur le vice-président, votre réaction à ces opinions des auditeurs, et nous nous excusons auprès de nos auditeurs qui ont envoyé vraiment beaucoup des opinions, mais le temps ne nous permet pas au fait de toutes les lire ici.
D'abord, je vais donner raison à celui qui a parlé le premier, c'est monsieur
Dalton, qui est étudiant au campus de Lac Goma.
Voilà un monsieur qui a dépassé le présent et commence déjà à entreprendre l'avenir. Parce qu'il est vrai que Mboudi sera appliqué totalement dans toutes ses dimensions dès lors que nous aurons dépassé les contraintes actuelles, les contraintes budgétaires et autres. Et qu'est-ce que je peux ajouter d'autre ? Si ce n'est, franchement, dire à nos compatriotes que la question sociale est tellement importante, le mal tellement profond qu'il était illusoire de penser que les temps, l'espace de la transition pouvait conjurer tout ce mal.
Mais c'est vous-même qui avez fait naître cet espoir-là dans les fonctionnaires.
Non,
et même dans le parent.
Ah, j'ai mal fait d'entreprendre un Mboudi qui a permis aujourd'hui aux derniers des fonctionnaires d'atteindre le niveau de salaire d'un professeur d'université. J'ai mal fait. Vous êtes sûr de ça? Allez leur demander, pensez s'ils vous diront que non, nous remettons à l'État, au gouvernement, le peu que nous avons pu avoir. Mboudi est un processus. C'est phase par phase que cela se met. Personne n'a dit à Mboudi qu'on va vous payer aujourd'hui $208. D'ailleurs, il faut savoir que le contrat, le barème en question, Il a commencé bien avant l'arrivée de la transition. C'est un engagement d'autres gouvernements. Simplement, nous ne sommes pas des gens irresponsables. Nous ne pouvons pas dire, puisque ce n'est pas nous qui avons contracté cela, ça ne nous regarde pas. Nous disons non, ça engage au nom de la continuité du service de l'État.
Monsieur le vice-président.
Mais cela étant, l'innovation qu'on a mis dedans, c'est la progression de phase par phase. Et je suis convaincu que Mboudi sera bientôt dépassé avec le Congo de demain. Je suis convaincu.
Alors, nous disons déjà merci pour cette promesse. Mais monsieur le vice-président, nous tendons vers la fin de cette émission. Brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire si en fin de compte, les bilans de votre commission dans cet espace de la transition étaient positifs ou négatifs, selon vous?
Non, je ne peux pas réduire la pensée au bilan positif ou négatif. Vous savez, entre le pour et le contre, il y a le sérieux. Et le sérieux, c'est quoi? Le sérieux, c'est que le gouvernement a entrepris. a entrepris des actions qui peut-être aujourd'hui n'apparaissent pas aux yeux de tous, parce que ça pourrait simplement être une goutte d'eau dans une chose. Mais cela étant, faut-il réduire la pensée au classicisme du bilan positif, bilan négatif? Je ne pense pas. Et surtout, nous sommes dans le domaine social, vous savez, c'est un domaine difficile d'évaluation.
Merci beaucoup, Monsieur le vice-président Arthur Zahid Ngoma. Je rappelle que vous êtes vice-président en charge de la commission sociale et culturelle. Donc, encore une fois, merci au nom de toute l'équipe des dialogues entre Congolais d'avoir répondu à cette invitation, également au nom de nos auditeurs. Cette émission sera rediffusée demain à 4h45 heure de Kinshasa. Vous pouvez également la retrouver sur le site internet sur www.radiookapi.net. Nos auditeurs sur ondes courtes peuvent également la suivre sur 11.69 kHz. Et alors, donc, nous disons à tous nos auditeurs au revoir et à la prochaine.
Merci.